Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Cet après-midi à 15h30, Franck Ferrand répondra en direct aux questions que vous voudrez lui poser via Twitter grâce au hashtag FerrandLive. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Alors, c'est la première fois que je me livre à cet exercice. J'espère que les auditeurs d'Europe 1 seront nombreux. N'hésitez pas à me poser les questions. Sur tous les sujets qui pourraient vous intéresser. Hein. Ça va durer pendant une heure, de 15h30 à 16h30.
Exactement. Le système, c'est d'une pièce d'Antoine Roux avec Laurent Deutsch, Stéphane Guillon et Urbain Cancelier qui se joue en ce moment au Théâtre Antoine. Et vous avez invité Franck, l'auteur et deux des comédiens cet après-midi.
Et oui, je suis heureux que Laurent Deutsch et Urbain Cancelier aient pu accompagner Antoine Roux, l'auteur de la pièce, pour évoquer cette passionnante expérience du système financier mis en place sous la Régence par ce banquier écossais John Law. À l'époque, on disait Las, on prononçait John Las. Je vous propose, pour plus de facilité, de dire Law pendant le cours de cette émission. Je vais vous raconter son histoire en quelques minutes, après quoi nous reviendrons sur cet épisode à peine croyable de notre histoire.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous évoquerez l'ouverture à Rouen de l'historiale Jeanne d'Arc.
Eh oui, vous voyez que nous sommes branchés sur l'actualité historique aujourd'hui. Nous aurons pour en parler en ligne Philippe Contamine, un grand historien médiéviste. Pour le moment, je vous propose d'aller faire un tour dans une époque dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'était guère propice aux pucelles.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Il faut d'abord que vous ayez à l'esprit ce que pouvait être l'économie de l'ancienne France, de ce royaume que Louis XIV avait laissé pour le moins exsangue, même s'il était puissant et immensément respecté. Il faut vous dire que l'économie de la France au tournant du XVIIIe siècle était essentiellement agricole, bien entendu, qu'elle dépendait pour l'essentiel des récoltes, et que, pour vous donner une idée, une catastrophe climatique comme avait pu l'être le grand hiver de 1709 avait des répercussions sur l'économie jusqu'à 50 fois plus importantes que la guerre de succession d'Espagne. C'est vous dire à quel point tout dépendait en vérité de cette agriculture que ne venait soutenir quasiment aucune industrie. Il y avait quelques manufactures, effectivement, on avait essayé avec Colbert déjà. Depuis une quarantaine d'années, on avait essayé de développer un début d'industrie, mais c'était encore très balbutiant. Quant au système fiscal qui permettait à la monarchie de fonctionner, il était tout simplement aberrant. J'ai souvent eu à ce micro l'occasion de vous raconter ce qu'était la ferme générale, ce système de délégation de perception des impôts à des officiers d'État qui achetaient leurs charges et qui, en échange, prélevaient sur les impôts une cote qui parfois était très importante, ce qui avait pour principal effet, et c'est ce qui nous intéresse nous dans le cadre de notre affaire d'aujourd'hui, ce qui avait pour principal effet de diminuer les liquidités. Or, un pays qui n'a pas suffisamment de liquidités ne peut pas être un pays en expansion économique. On avait vu à quel point l'or des Amériques avait propulsé l'Espagne au sommet des puissances européennes un peu plus d'un siècle plus tôt. On avait vu à quel point le commerce international permettait à l'Angleterre de garnir ses coffres d'or et d'argent. Or, un des problèmes de la France, c'est que le commerce s'y trouvait particulièrement peu développé. Bien sûr qu'il y avait, notamment dans les grands ports, des maisons de commerce et de négoces qui était en plein développement. Mais c'était un commerce, là encore, assez balbutiant. Donc vous voyez, sans compter, alors ça c'est une chose très importante, que l'on avait perdu, avec les protestants, une part non négligeable de la matière vive du pays. Avant la révocation de l'édit de Nantes, les protestants avaient demandé l'autorisation d'aller s'implanter au Canada. Ça aurait d'ailleurs été extraordinaire. On ne peut pas faire d'histoire-fiction, mais ce serait très passionnant d'imaginer ce qu'aurait pu être la puissance française avec son relais en Amérique du Nord si Louis XIV avait donné l'autorisation demandée vers la fin des années 1670. Hélas, non seulement il ne l'avait pas donnée, Mais vous savez ce qu'il en a été avec, en 1685, cette révocation de l'édit de Nantes qui a forcé, a conduit en tout cas, un nombre important de protestants à prendre la poudre d'escampette et à aller créer en Angleterre, en Suisse, en Prusse, un certain nombre de foyers qui, eux, allaient devenir des foyers industriels et allaient constituer peut-être la base de ce qui plus tard serait la concurrence même de l'économie française. Donc, une situation économique assez archaïque, une situation financière inextricable, avec à la tête du pays depuis la mort du grand roi en 1715, son neveu Philippe d'Orléans, que le Parlement de Paris avait rétabli dans l'intégralité, dans la plénitude de ses pouvoirs, hein, Philippe d'Orléans d'une grande intelligence, d'une grande ouverture d'esprit, et c'est ce que montre très bien la pièce d'Antoine Roux, mais en même temps, pas très versé dans la finance, il faut bien le dire, la finance n'était pas son domaine. Il savait comprendre ce qu'on lui expliquait. Et lorsqu'il avait des rendez-vous, notamment avec ces diables de frères Paris, qui à l'époque avaient quasiment fait main basse sur une part non négligeable des finances royales, dans ces moments-là, il était capable de comprendre ce qu'on lui disait. Mais ce qu'il comprenait surtout, c'est qu'on allait tout droit vers la banqueroute. Parmi ses conseillers, celui qui avait refusé de présider le Conseil des Finances, qui par ailleurs nous est bien connu car c'est le très célèbre mémorialiste, il n'avait pas encore commencé à écrire ses mémoires à l'époque, hein. Le duc de Saint-Simon était favorable à la banqueroute. Il n'était pas le seul. Une grande partie de cette haute aristocratie qui, dans les années 1715-1716, gouverne la France par l'intermédiaire des grands conseils dont elle est présidente. Les conseils en question, c'est ce qu'on va appeler le système de la polysynodie. Vous savez, un système de gouvernement aristocratique et collégial. Tous ces grands aristocrates sont pour la banqueroute. Pourquoi ? Parce que ça permettrait de ruiner les créanciers de l'État, tout simplement. Un peu comme lorsqu'une entreprise aujourd'hui fait banqueroute, hein. Les créanciers sont évidemment se retrouvent le bec dans l'eau. Parmi ces créanciers, il y a des fournisseurs aux armées, il y a des agioteurs, il y a d'une façon générale un certain nombre d'escrocs que cette haute aristocratie rêverait de voir perdre son pouvoir. La dette de l'État en 1716 est de 3,5 milliards de livres, ce qui constitue une somme absolument gigantesque. Pour vous donner un exemple, l'ensemble des frais de la guerre contre la Ligue d'Augsbourg, c'est 500 millions de livres. Là, on est à 3,5 milliards de dettes de l'État. Tout ça n'est pas sans nous rappeler notre époque, évidemment, et ça n'est pas le moindre des charmes de la pièce que l'on peut applaudir en ce moment au Théâtre Antoine que d'avoir comme ça des résonances qui nous font beaucoup penser à notre situation. Est-ce que le remède qui va se présenter aux régents fait penser à ce qu'on est en train de proposer à la France ? Je vous propose de voir ça dans un instant.
Extrait de la bande originale du film Que la fête commence sur Europe 1 de Bertrand Tavernier. Dans un instant, la suite de votre récit sur la banqueroute de John Law, Franck Ferrand.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Revenons avec vous, Franck Ferrand, à la banqueroute du financier écossais John Law.
Alors avant la banqueroute, il y a le succès et même un grand succès. Lorsque paraît John Law, on dit l'as encore une fois à Paris à l'époque, il n'est pas un inconnu. Il est depuis longtemps un voyageur, un aventurier. On le voit assez régulièrement dans un certain nombre de cercles de jeu. Et l'on pense qu'aux alentours de 1711-1712, celui qui allait devenir le régent, qui à l'époque était seulement le neveu du roi, enfin tout de même, son Altesse royale, le duc d'Orléans, avait rencontré Law. Ils avaient même, si l'on peut dire, sympathisé. Et il faut être conscient que le régent avait donc, celui qui devient le régent en 1715, avait avait un a priori très favorable. Qui était ce John Law of Lauriston? On a une rue Lauriston à Paris, mais qui n'a rien à voir, je le précise. Il était né à Édimbourg en 1671. Son père était un orfèvre. Et lui, cet enfant, si je puis dire, il apparaît d'emblée comme très doué, particulièrement doué. C'est un mathématicien de génie. Quelqu'un qui comprend tout plus vite que n'importe qui, avec tout de même, et ça arrive parfois aux surdoués, avec une certaine tendance à la facilité et notamment au jeu. Il possède suffisamment de martingales pour se croire invincible dans un certain nombre de jeux. On le voit à de nombreuses tables de jeux. Ça ne se passe pas toujours bien pour lui. Il s'endette même à plusieurs reprises. Je ne vais pas vous raconter toute la vie de John. Toujours est-il qu'il se trouve emprisonné à Newgate, probablement pour une affaire de duel. On a même pensé qu'il avait été condamné à mort. Toujours est-il que, bénéficiant sans doute de complicité, il a réussi à gagner le continent où il va développer la même industrie brillantissime que celle qu'il avait déjà mise en œuvre en Angleterre. On le voit un peu partout, faire des dettes, il voyage énormément. Il a donc rencontré, avant la mort de Louis XIV, Philippe d'Orléans. Il a une passion, il faut vous dire, pour celle qui est sa compagne. Il ne se marie pas, mais c'est sa compagne, c'est Catherine Lady Senior, personnage très intéressant sur lequel on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Et dès avant la mort de Louis XIV, on voit cet Écossais proposer au prince, à Philippe d'Orléans, une solution pour la restauration du crédit de l'État, qui était dans une situation extrêmement difficile à l'époque. Et si des personnalités comme Samuel Bernard, comme Crozat, etc. n'avaient pas été là, on se demande même comment Louis XIV aurait pu boucler cette fin de règne. Le grand roi refuse pour une raison toute simple et toute bête, c'est que Law est protestant. Et donc il n'est pas question, bien sûr, de lui faire le moindre crédit. Alors, il va revenir à la charge en octobre 1716. Il était déjà passé d'ailleurs au Palais Royal voir le régent en octobre 1715. Donc il a eu le temps quand même de préparer, de présenter son projet. Son projet, c'est la création d'une grande banque privée. Alors, on va y revenir avec nos invités dans un instant, bien entendu, en quelques mots et pour expliquer ce dont on parle. Il s'agit tout simplement de compenser le manque de liquidité considéré comme l'une des raisons de l'appauvrissement et des difficultés de la France. Par ailleurs, une France qui est le pays le plus peuplé d'Europe, d'une prospérité phénoménale pour ce qui est de son agriculture, de tous ses produits, de la richesse de ce terroir incroyable, mais qui ne possède pas assez de liquidité pour développer une économie véritablement digne de ce nom et moderne. Et pour augmenter ses liquidités, bien un moyen tout simple, c'est de créer des billets qui seraient donc une monnaie de papier qui a bien entendu son correspondant en valeur métallique, en or et en argent, mais évidemment, on va éditer davantage de billets qu'on a d'or dans les coffres. C'est assez vite ce vers quoi on va se diriger. Ça va permettre ça de donner un oxygène considérable, on va insuffler du sang neuf à l'économie française, et le régent se dit c'est très intelligent cette histoire. Je suis un peu le roi Midas, j'ai la possibilité de créer moi-même l'or qui fait défaut à la France. Ça marche tant qu'il y a du crédit. Il faut donc que l'État, et vous savez que l'État français est le plus puissant de tous les États dans l'histoire, en tout cas à cette époque incontestablement. Vous imaginez, c'est un État qui est pluriséculaire, la confiance est totale. Entre nous soit dit, quand on voit ce qu'il est advenu d'un certain nombre de grands argentiers de différents rois de France, c'est un crédit qu'on aurait pu mettre en doute. Mais je ferme cette parenthèse, toujours est-il que si le régent, si la monarchie, si l'ensemble des institutions françaises assoient le crédit de cette banque privée, alors il n'y a pas de raison de ne pas lui faire confiance. Et puis surtout, très vite, on va se rendre compte que cette banque est un moyen de spéculer. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la monnaie de papier s'envoler littéralement, lorsqu'on voit cette monnaie prendre une valeur considérable avec des augmentations qui vont en deux ans être de 350, de 400, de 450%, évidemment ça donne envie à tout le monde. Et l'on va voir se précipiter au siège de la fameuse banque, rue Quincampoix. La rue Quincampoix se trouve aujourd'hui dans le quartier de Beaubourg, mais il faut imaginez cette rue infiniment plus brillante et plus centrale qu'elle ne l'est aujourd'hui. On va voir affluer rue Quincampoix tous ceux qui espèrent s'enrichir. Et il n'y a pas là seulement de grands seigneurs ou des personnes de la haute bourgeoisie. Il y a aussi à peu près n'importe quel détenteur d'économie qui se dit « je possède aujourd'hui 100 livres. Si Monsieur Lowe a raison et si le régent ne nous entraîne pas dans une triste aventure, j'en aurai bientôt 1000, 2000, pourquoi pas 5000 ?» Et d'autant plus que tout ça va bientôt s'asseoir sur une entreprise de commerce extrêmement florissante en apparence, qui est une entreprise de colonisation. Alors ça nous entraînerait peut-être dans un autre, on en dira un mot peut-être tout à l'heure, mais ça nous entraînerait dans tout un sujet qui est celui des colonies françaises, et en l'occurrence la Louisiane et le Mississippi, hein, toute cette nouvelle colonie française d'Amérique du Nord, que nous devons à Cavelier de la Salle notamment, en grande partie, cette colonie était elle aussi d'une richesse extraordinaire, elle était entièrement à développer et l'on se disait après tout, pourquoi pas ? La banque est greffée sur la compagnie, ou plutôt d'ailleurs c'est plus de la compagnie du Mississippi qui est greffée sur la banque. Alors, on a beaucoup raconté avec quel subterfuge on avait tenté de peupler cette colonie. Vous savez qu'on ramassait les ribaudes, comme on disait, les filles de mauvaise vie dans un certain nombre de lieux de débauche, et on les mettait quasiment de force sur des bateaux, en espérant qu'elles trouveraient mari en arrivant. C'était d'ailleurs un espoir qui s'est avéré pour l'essentiel absolument vain. On pensait qu'on allait créer sur place une colonie de peuplement et surtout de développement économique qui ne ferait qu'accroître la valeur de la société et de la banque. En fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont les limites de la compagnie du Mississippi qui ont signé le début de la fin pour la banque de Lowe? Ou est-ce que c'est le manque de crédit de la banque qui a interrompu le développement du Mississippi? Ça, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand au système de Lowe et à sa banqueroute.
Alors oui, on n'est pas encore tout à fait à la banqueroute. En 1719, c'est la guerre contre l'Espagne. Lowe est tranquille, il peut travailler, n'est-ce pas? Il lance une augmentation du capital. C'est une opération qui est bien montée, qui fonctionne. Le succès est considérable et l'on peut dire que les ennemis du système commencent à se liguer, si je puis dire, et à se dire nous allons réclamer la conversion de la monnaie que nous avons accumulée. Vous savez que ça, c'est le grand danger, bien entendu. Les réserves n'étant pas suffisantes, si tout le monde vient au guichet le même jour pour demander son dû, alors évidemment, on court à la banqueroute. Mais encore une fois, on n'en est pas là. Le système atteint son apogée, ce qu'on appelle le système, hein, ce système financier du banquier écossais, atteint son apogée pendant l'hiver 1719-1720. À cette époque-là, du reste, John se convertit au catholicisme et ça va lui permettre de devenir quasiment l'un des plus hauts responsables de l'État puisqu'il est contrôleur général des finances. Les actions ont grimpé, hein, c'est tout à fait incroyable. Les actions de la compagnie sont passées de 500 à 18 000 livres, ce qui veut dire que la foule afflue à Paris pour spéculer. Alors là, la spéculation prend un cours incroyable, extraordinaire. Il faudrait d'ailleurs, on essaie dans la mesure du possible, de limiter la possibilité d'échange. C'est-à-dire qu'on se dit, si les gens viennent rechercher l'équivalent en or, il faut qu'il ne puisse pas réinvestir cet or. Donc, alors le régent prend toute une série de mesures. Interdiction de stocker de l'or, interdiction d'acheter des bijoux ou de la vaisselle d'or ou d'argent. Et alors on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut acheter? Eh bien, on peut acheter du mobilier. Voilà où je voulais en venir. Ça, c'est un petit détail qu'on ne raconte pas suffisamment. Le cours des meubles, tout simplement, et des objets d'art et des objets de décoration a été multiplié par 5 en l'espace de 6 mois à cette époque. Eh bien, ça, figurez-vous que c'est la naissance des arts décoratifs français tels que nous les connaissons. Toutes les grandes maisons de ce qu'on appelait les marchands merciers, tous les grands ébénistes, etc., vont faire fortune sous la régence grâce à ces mesures. Et les mesures en question, elles ne sont destinées qu'à empêcher le remboursement, à désinciter en quelque sorte les possesseurs d'actions à aller se faire, et de billets surtout, d'aller se faire rembourser. Hélas, ce ne sera pas suffisant. Et la banqueroute dont vous nous parlez, chère Céline, avec une telle insistance depuis tout à l'heure, nous allons y venir car c'est maintenant qu'elle va avoir lieu. Bonjour Antoine Roux, merci d'être avec nous et d'être venu avec deux de ceux qui incarnent vos personnages sur la scène du Théâtre Antoine. Bonjour Urbain Concelier, bonjour Laurent Deutsch, bonjour. C'est très gentil d'être ici. On a un peu l'impression d'être avec le régent et avec l'as, puisqu'on l'appelait l'as. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait l'as, Laurent Deutsch?
C'est une histoire de calligraphie, on n'était pas tellement habitué au W à l'époque en France.
Donc il y a eu une erreur, tout simplement.
C'est
ça. Et puis c'était peut-être plus facile à dire aussi.
Le
voilà.
W se prononçait un peu comme deux S.
Voilà, exactement. Eh bien, nous venons à John Lass ou John Law, comme vous le voulez, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Après-midi, dans le cœur de l'histoire, vous nous parlez, Franck Ferrand, de John Law, du régent et de la banqueroute. On va y venir, j'y tiens. Avec vos invités, Antoine Roux, qui est écrivain, romancier, auteur de pièces de théâtre et qui a créé donc le système, cette pièce qui se joue en ce moment au Théâtre Antoine, avec comme comédien Laurent Deutsch, qui interprète John Law dans la pièce Le Système et qui est avec nous cet après-midi.
Appelez-moi John.
N'est-ce pas? Et Urbain Cancelier qui est également avec nous et qui interprète lui le régent dans la pièce aussi.
Ah oui, faut l'appeler Monseigneur par contre.
Ah oui, Monseigneur, un régent truculent et un John Law tel qu'on ne se l'imagine pas, je vous avoue. J'ai découvert, grâce à votre pièce Antoine Roux, un personnage qui est très décrié dans l'histoire, qui passe généralement pour une sorte de simple, pour un faiseur, pour le destructeur de toute une économie et de toute une finance, et l'on se rend compte que finalement, c'est plutôt la petite bande des financiers, notamment des pourvoyeurs aux armées, qu'il l'a écrasé et qu'il l'a liquidé, ce John.
Il a été victime. C'est un homme qui était habité par cette idée, qui était son système, et sans doute qu'il a un peu péché par orgueil et par naïveté, parce qu'on s'est servi de lui et qu'au moment où effectivement donc la spéculation était freinée, au moment où la bulle, c'est le mot d'ailleurs date de là, hein, c'était les Anglais qui l'ont inventé, mais à la même période avec la crise de la compagnie des Indes en Angleterre, ils avaient appelé ça le Bubble Act parce qu'on avait lutté contre la chute des valeurs. C'est vrai que ce John Law était très décrié. À tort, à mon avis, parce que c'était un homme qui a créé, en fait, un système d'économie moderne. Et c'est vrai que l'économie moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, on peut la dater pratiquement de son époque.
D'ailleurs, un de nos auditeurs, Patrick, nous demande si ce que l'on observe actuellement aux États-Unis avec cette réserve fédérale américaine qui accro, nous dit-il, à la planche à billets, ce n'est pas une version mondialisée et actuelle du système de John Law.
En fait, toute forme de... souvent, c'est Keynes un petit peu qui a repris, au fond, aussi les idées de John Law, c'est-à-dire réinjecter du crédit dans l'économie pour relancer l'économie, tout en ayant aussi un accompagnement de l'État quand même.
Mais il faut que la garantie de l'État permette l'opération, ce qui a été le cas quand même. Alors, on va faire plaisir à Céline, malheureusement, tout ça finit mal. C'est-à-dire que un jour, tout le monde décide, quand on voit que la valeur s'inverse et qu'on est en train de perdre de l'argent, chacun vient avec
sauf qu'il peut.
Chacun arrive avec ses stocks et ses brouettes de billets pour être remboursé.
On a connu quelques années avant, en Hollande, qui était un système plus avancé, qui avait un système financier plus avancé que la France, ce qu'on a appelé la crise la spéculation sur les tulipes.
Voilà.
Et donc ça, c'est la première grande crise financière.
La
crise de la tulipe. Parce que les bulbes de tulipes prenaient des valeurs absolument
spéculatives, encore une fois.
Là, c'est les actions, donc il y a la monnaie de papier que crée John Law, mais il y a aussi le système des actions. Et donc avec la compagnie du Mississippi qu'il a racheté, donc il propose d'acheter des bouts des actions qui seraient sur la valeur à venir des terres américaines. Et comme c'est effectivement ces actions dont le prix en fait s'envole, alors que ça repose sur rien, parce que ce qui revient par bateau des États-Unis, au moment, il faut du temps. D'ailleurs, John Law le sait, il faut du temps pour développer au départ le Mississippi, qui est une terre absolument gigantesque, qui fait à peu près le tiers des États-Unis actuels. C'est pas le Mississippi tel qu'on l'État.
Non, bien sûr, ça monte infiniment plus grand, bien sûr, oui.
Jusqu'au Grand Lac. Donc, en fait, il y a à peu près 300 habitants sur un territoire qui fait le tiers des États-Unis actuels. Il y a personne. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on envoie un peu n'importe qui, des prostituées, des clochards, enfin, des mendiants. On envoie aussi, on commence à envoyer des esclaves. C'est le début de l'esclavage. Et voilà. Et pour l'instant, cette terre ne rapporte rien. Et donc, ces actions ont une valeur qui repose sur pas grand-chose.
C'est très fragile.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, certains commencent à s'en inquiéter, des bruits courent, et on va sans doute aussi, ce que vous disiez au début, donc comploter un petit peu pour faire tomber l'eau.
Ce qui est intéressant et qu'on voit particulièrement bien dans la pièce, c'est que le régent, à lui tout seul, va faire confiance à cet aventurier, à ce banquier, à ce visionnaire, comme vous voudrez. Il est entouré, le régent, d'un certain nombre de conseillers parfaitement hostiles. Évidemment que tous ceux qui profitent depuis longtemps de l'ancien système financier n'ont aucun intérêt à faire une place à cette nouvelle banque. Vous nous campez, Urbain Cancelier, un régent plein de bonhomie et d'une intelligence tout à fait conforme à ce qu'on sait du personnage historique, avec peut-être quelque chose de, comment dirais-je, de plus enthousiaste encore.
Pourtant, on m'avait bien interdit d'être bonhomme. j'avais lu la pièce, j'avais été enthousiasmé par le rôle et je trouvais qu'il était d'une humanité extraordinaire. Et alors, ils sont venus me chercher, ils m'ont demandé de l'interpréter, ce qui était un cadeau magnifique. Alors, ils m'ont dit, mais surtout pas bonhomme.
Et ben, c'est un faux bonhomme.
Ça sort, oui, c'est un ça faux sort bonhomme. Quand même un
on
peu.
On sent, c'est très intéressant. Je pense qu'on est assez proche, là, du personnage. C'est-à-dire que on sent un mélange chez lui d'amour de la vie, de bonne volonté, de très grand respect du système, enfin, du régime qu'il est là pour servir. On sait à quel point le régent se montrera parfaitement propre. Il va remettre à Louis XV sa couronne c'est presque exemplaire comme démarche politique. Et puis on sent en même temps un homme cynique, revenu de tout, et qui peut se montrer même cruel, disons-le.
Il a pris le pouvoir.
Il a pris le pouvoir.
C'est un homme de pouvoir.
Eh oui.
Oui, d'ailleurs, la chute du système n'est pas non plus voulu pour atteindre le régent à travers l'as, non ? Je pense que cet homme qui a réussi à écarter quand même les bâtards, qui a réussi à s'imposer comme
régent. Donc les bâtards du roi qui figuraient dans le testament de Louis XIV, qui ont été écartés par le Parlement de Paris.
Et puis, il a réussi à s'imposer avec une habileté extraordinaire. Je pense que les Condés, entre autres, avaient été contents de le mettre en péril, ou en tous les cas en péril, non, mais en
porte-à-faux. Tout le monde a conspiré contre lui pendant...
Mais c'était une conspiration. Et comme on ne pouvait pas l'attaquer de face, c'était bien de prendre l'as dans la ligne de mire.
On sait que cette affaire du système, et d'une façon plus générale aussi, les affaires diplomatiques très difficiles de la Régence, nous en avons parlé l'autre jour à l'occasion de l'émission sur l'abbé Dubois, car on a parlé de l'abbé Dubois récemment.
Ah oui.
Abbé Dubois interprété magistralement par Stéphane Guillon dans la pièce.
Côte-le à souhait.
Oui.
Patelin comme il faut. Quoi.
C'est important parce que c'est
de double langage qui va très bien à Stéphane Guillon.
Oui. En tout cas, ce personnage de Dubois va tout faire pour revenir aux fondamentaux et aux habitudes. D'une certaine manière, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui est le plus étonnant, c'est la relation qui s'établit entre ce prince du sang, régent de France, Philippe d'Orléans, et cette espèce d'aventurier écossais. Ils sont devenus très proches, très amis, on les voit travailler des heures et des nuits ensemble. C'est assez étonnant, cette relation qui naît entre eux. Laurent Deutsch.
Mais je pense que le régent aimait les gens qui se sont construits par eux-mêmes, les gens méritants, les gens volontaires, les gens compétents surtout. Et puisque le régent lui-même a dû se faire sa propre place au soleil, qu'il a dû écarter, jouer des coudes, je crois qu'il était, il avait du respect, il avait de l'admiration pour quelqu'un pas de basse extraction, mais quelqu'un quand même de beaucoup moins puissant, arrivant de par son intelligence, son mérite et par son système déjà à redresser le pays et à proposer une solution efficace qui allait relancer l'économie et qui en plus allait pouvoir donc donner des coups de menton à tous ceux qui se sont simplement contentés d'être nés.
Ce qui est très étonnant avec ce personnage de John Law, l'as pour les Français, c'est qu'il est, il n'a pas de soutien particulier. Il connaît le régent pour l'avoir rencontré dans des lieux qui au départ ne sont pas forcément très recommandables. Il ne dispose personnellement, il a une grande fortune incontestablement, mais il ne dispose de l'appui d'aucune grande institution financière. Enfin, on a envie de dire, il arrive un peu de nulle part, et on le sent ça dans la pièce, c'est-à-dire que il a quand même une dimension aventurière, incontestablement.
Et aussi très charismatique. En son temps, c'était un des hommes les plus séduisants de la cour, oui, à l'époque du régent. Et moi, il me fait penser...
Là, par contre, bon, évidemment, on n'a pas eu le plus séduisant du monde, mais...
Dans la personne de Laurent Deutsch,
c'est pas George Clooney. Je suis fortement maquillé. J'ai une perruque, ce ne sont pas mes cheveux, ce ne sont pas mes dents. Et non, on a réussi à créer quelque chose d'à peu près ressemblant.
Il a des hauts talons.
Le
plus crédible.
Mais il fait un peu penser à ces hommes comme ça, fougueux, à la fois impétueux, flamboyants, un peu Bernard Tapie dans les années 90. Quoi. Il ressemble...
Habité par son énergie et par
son
idée. Et
surtout, et ça on le ressent intensément dans la pièce, vous savez, je suis pas là pour vous vraiment pour vous tresser des couronnes de laurier, mais tout
le succès est établi.
Mais parce que ce qui est formidable dans cette pièce, c'est que on croit qu'on va venir s'amuser, on pense qu'on va, comme avec un certain nombre de pièces historiques, car c'est un genre qui est en train de se développer, hein, il faut le dire, qu'on va se plonger gentiment dans un joli pièce. Et pas du tout. On est pris d'abord par un enthousiasme croissant, on partage ses espoirs du régent, on partage cette envie, et puis on est pris encore plus fort par l'espèce de retournement de situation d'un seul coup, quand on voit à quel point ce pauvre John Law est pris dans la nasse, il est pris au piège, et il a contre lui toutes les institutions, tout ce qu'il y a de plus conservateur au monde. Finalement, sa vision vient se fracasser contre des intérêts, contre les gens
de pouvoir. Mais ce qui m'a intéressé en construisant cette pièce, c'était justement de représenter que ces grands personnages, donc l'abbé Dubois, le régent, John Lass, mais aussi d'ailleurs les autres qui sont autour de lui, comme par exemple une courtisane que j'ai appelée Madame II, qui est un peu la synthèse de toutes les maîtresses du régent.
Marie Bunel
qui est extraordinaire.
Et il faut citer aussi Sophie Barjac dans le rôle de
Éric Métayer dans le rôle d'un des frères Paris.
Ouais. Formidable.
Ouais. Et alors, les frères Paris, d'ailleurs, c'est aussi un peu la même chose. Ce sont des gens qui se sont faits eux-mêmes, qui ont réussi à la force de leur intelligence. Ce ne sont pas les Condé, les Conti, les princes du sang, les grandes familles de l'Ancien Régime qui ont le pouvoir de naissance. Ce sont des gens qui se sont battus pour l'avoir. Et c'est ça qui les unit d'une certaine façon. L'abbé Dubois, c'est un Corrézien qui était fils d'apothicaire, qui n'est pas un homme, vous en avez parlé dans une émission précédente. John Lass, il sort un peu de nulle part. Et le régent, il le raconte d'ailleurs dans la pièce, il s'est battu comme un chien, comme un lion, pour prendre le pouvoir, parce que Louis XIV n'a pas du tout prévu de le lui donner.
Non, Louis XIV n'aimait pas son neveu, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on vient dans un instant à ce qui fait le cœur même de cette pièce, n'est-ce pas Céline ? C'est la banqueroute de Lass.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du régent, de John Law et de la banqueroute, illustrée par la pièce de votre invité Antoine Roux, Le Système, jouée en ce moment au Théâtre Antoine, avec sur scène, entre autres, Laurent Deutsch et Urbain Cancelier, qui sont également avec nous cet après-midi.
Quand le système s'effondre, Laurent Deutsch, on peut dire que votre personnage, John Law, continue néanmoins d'y croire. Il s'oppose à l'adversité et même à la fatalité.
Mais il s'opposait aussi au gain trop rapide. Il voulait que les choses restent connectées. C'est ça qu'il faut voir. C'est un aventurier, c'est un joueur, mais son système était efficace et pouvait être efficace tant que les gens restaient confiants, mais aussi mesurés, modérés, et qu'ils ne commencent pas à courir. Il était l'ennemi des spéculateurs, il était l'ennemi des agioteurs. Lui, il voulait vraiment qu'il y ait de l'ingénierie, les liquidités qui soient injectées dans l'économie d'un pays pour qu'il fasse florès et que ça fonctionne dans tous les domaines. Il voulait qu'on ait confiance et qu'on capitalise sur la banque, donc, et sur la compagnie du Mississippi, mais il voulait surtout pas, il n'était pas pour le gain immédiat, pour le gain rapide. Il voulait que ce soit à long terme et que ce soit profitable pour tous. Donc il avait une vraie, à la fois une vision presque angélique de son système et très enthousiaste et efficace, mais aussi il luttait lui-même contre les effets pervers. Il était le premier à vouloir limiter les dividendes possibles, le retour sur investissement trop rapide. Il voulait qu'on attende et qu'on voit comment le petit à petit les choses soient qu'il y ait des résultats concrets, et que ce soit sur ces résultats concrets qu'on puisse s'enrichir et non pas sur des retours et sur de la spéculation.
Vous êtes servi évidemment par le texte d'Antoine Roux. Il y a non seulement des mots d'auteur, il y a toute une progression dramatique, bon ça c'est le fait d'une bonne pièce, mais il y a aussi une très grande fidélité au parler de l'époque avec énormément de subtilité, de finesse. Ça doit être très agréable de dire un texte comme celui-là?
C'est le bonheur de se sentir comédien tout d'un coup, parce que c'est vrai que les mots qu'on emploie ne sont pas forcément ceux qui nous appartiennent, ne sont pas ceux du quotidien, et c'est un grand plaisir, un peu comme un costume, que de s'habiller. On habille notre propre langue et notre propre langage, et on a la sensation vraiment de voyager dans le temps. Et moi qui adore ça, là je suis servi.
Avec un jeu sur plusieurs registres, Urbain Cancellier, puisque vous êtes, vous, un personnage qui fait presque peur vers la fin de la pièce et en même temps qui est assez drôle, quand même, il faut bien le dire. Vous jouez sur tous les registres, en quelque sorte.
Je ne fais pas exprès. Je pense qu'un comédien ne peut donner qu'une couleur et après, c'est le personnage qui lui-même vous offre la palette.
On sent que vous avez beaucoup fréquenté la littérature de ce temps, Antoine Roux. On entend un peu de Madame Palatine dans vos phrases.
Ah bah la Palatine, ça je l'ai beaucoup lu pour écrire la pièce, parce que c'est tellement drôle. C'est vraiment une commère à la cour de Louis XIV. Bon, et il y a tellement, toutes ces lettres sont géniales. On peut les lire et les relire inlassablement. C'est un langage très moderne aussi qu'elle a. Donc ça m'a beaucoup amusé quand elle traite la Maintenon de cette conne, la
Montespan
de pute, etc. C'est à mourir de rire.
Ce sont ses mots.
Oui. Non, mais la pièce est très fidèle à l'esprit et à la lettre. Vous êtes servi par de beaux costumes, de beaux décors, etc. Tout ça est somptueux. Mmh. Et puis, et ça me paraît essentiel, par une distribution très homogène. Est-ce que vous vous êtes, comment avez-vous fait pour vous plonger dans cette époque de la Régence, Urbain Cancellier? Vous avez lu, vous avez...
Alors moi, je suis passionné d'histoire et j'étais enchanté d'être distribué là-dedans. Mais je me suis bien interdit de lire quoi que ce soit, parce que je pense que ce qui est important, c'est d'être le régent de la pièce de Rowe et non pas d'être le régent qui éventuellement sortirait de Saint-Simon, de Michelet, de Petit-Fils ou je ne sais qui. Et donc, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai tenu 3 semaines et au bout de 3 semaines, je me suis plongé dans une biographie avec gourmandise.
L'amoureux d'histoire et l'historien en vous, Laurent Deutsch, a dû prendre plaisir à aller lire quand même un certain nombre de bios, j'imagine.
Ah ouais,
et notamment la somme de Jean-Christian Petit-Fils, qui, contrairement à une grande partie de l'historiographie, n'est pas opposée à John Law, faut le dire.
Qui d'ailleurs, dans sa biographie sur le régent, il y a tout un chapitre concernant Law, qui est chapeauté le système. Et c'est vrai qu'on voit, et c'est lui qui d'ailleurs m'a donné envie d'incarner ce personnage, on voit à quel point il y a une réhabilitation possible. On a une autre lecture possible de voir comment, après le système de Jean Lasse, l'économie a été relancée, la dette a été divisée de moitié, et puis surtout les paysans, les ouvriers, les artisans, les commerçants, tous ceux qui travaillent, ont pu vivre de leur travail, avoir des salaires un peu plus correspondants par rapport aux biens fabriqués, et à donner de la valeur à leurs marchandises, à la valeur du travail. C'est vraiment ça, c'est vraiment une ode finalement au travail, le système que défend Law.
Antoine Roux.
La grande œuvre sur Jean Lasse, à mon avis, c'est La banqueroute de Lasse de Edgar Faure. C'est une somme qui fait 800...
Qui savait de quoi il parlait en matière de finance.
Qui connaît le pouvoir et la finance, et qui a fait un travail absolument remarquable. Il a écrit dans cette collection Les journées qui ont fait la France,
oui,
il l'a fait
sûr.
Sur Turgot. Et ce livre-là, à mon avis, maintenant, il y a une nouvelle biographie qui vient de sortir, effectivement.
Oui, qui s'appelle, alors c'est de Nicolas Buat, ça s'appelle John Law, tout simplement. La dette ou comment s'en débarrasser, c'est aux éditions des Belles Lettres. Voilà. Ça vient de sortir en même temps que vous montiez sur scène.
Celle-là, je n'ai pas pu la lire parce qu'elle est sortie après que la pièce se joue. Donc,
qu'est-ce qui vous a inspiré, vous, Antoine Roux, du point de vue historiographique?
C'est l'élection, c'est l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Tout de suite, tu t'es dit, il faut que j'écrive une pièce sur ce qui va nous arriver.
Cela dit,
c'est pas faux.
Les allusions à l'époque actuelle sont très nombreuses.
Mais le régent, en plus, il y a quelque chose plus de Hollande que de Strauss-Kahn, parce qu'on peut penser que c'était un libertin. Tout ça. Non, c'est-à-dire que c'est un homme qu'on ne voit pas venir, le régent. C'est un homme qui a été un peu sous-estimé, notamment par les princes du sang, en disant, au fond, il va peut-être pas trop nous embêter. Et en réalité, c'est un homme qui avait un très fort caractère et qui était capable de tout, et y compris de prendre des décisions extrêmement brutales au service du pouvoir, mais aussi au service de, comme vous l'avez dit, quand même de l'intérêt de la France.
Le soir où j'ai assisté à la présentation, il y a une réplique qui a été particulièrement applaudie. On voit Paris, donc financier, traditionnel, et qui, alors je n'ai pas la phrase exacte, mais qui dit « on commence à entrevoir le début de ce qui pourrait être une amélioration », etc.
C'est vrai que ça nous fait... du présent ou du futur.
Oui, c'est ça. Ça fait quand même beaucoup penser...
La situation est sur le point de commencer à s'améliorer.
Voilà, c'est ça. Bah,
en fait, c'est-à-dire que je voulais écrire une pièce au départ sur l'argent, la finance et la politique aujourd'hui. Et j'ai trouvé que en prenant un sujet contemporain, c'était plus caricatural finalement que de plonger dans l'histoire. L'histoire est un miroir merveilleux et aussi très romanesque. Et donc là, j'ai trouvé tout d'un coup que je pouvais décrire le système financier qui est incarné, c'est la seule fois dans l'histoire, par un seul personnage qui est Jean Lass.
Ouais, c'est magnifique ça.
Et donc c'est assez fascinant. Si on prend la crise des subprimes en 2008, bon, il y a Bernard Madoff qui est un escroc, mais il incarne pas à lui tout seul le système. En Jean Lass, lui, l'invente le système.
Vous nous montrez, Antoine Roux, qu'un des meilleurs moyens de parler du présent, c'est encore d'aller chercher ses sources dans le passé.
Tous les écrivains l'ont fait.
Je ne peux que conseiller à nos auditeurs de se ruer au Théâtre Antoine pour applaudir Laurent Deutsch, Urbain Cancelier, toute la magnifique troupe qui fait revivre la Régence, qui fait revivre et mourir le système et qui surtout nous invite à réfléchir sur la nature même de la politique. Merci messieurs.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ce week-end ouvre à Rouen l'historiale Jeanne d'Arc et pour en parler, nous accueillons votre invité, l'historien médiéviste Philippe Contamine au téléphone.
Et oui, exactement. Et oui. Philippe Contamine est en ligne à l'occasion de cette ouverture de l'historiale Jeanne d'Arc. Ce sera après-demain, samedi. On est dans le palais archiépiscopal de Rouen, ce qui est peut-être un clin d'œil à l'histoire de Jeanne. Bonjour Philippe Contamine.
Bonjour Monsieur Ferrand.
Merci de nous prendre en ligne pour nous parler de cet endroit qui est une sorte d'hommage, en vérité, presque de lieu de pèlerinage.
On peut le dire comme ça, dans la mesure où il y a plusieurs villes en France qui peuvent célébrer l'histoire de Jeanne d'Arc, la mémoire de Jeanne d'Arc, naturellement, dont Rémy et Vaucouleurs, mais également Chinon, mais également Poitiers, et puis Reims, et puis Compiègne. Mais je pense
oui,
que
Rouen, c'est la fin, c'est la fin de l'épopée. Oui.
Rouen s'impose parce que c'est là qu'il y a eu son procès de condamnation.
Bien sûr.
En 1431, et un quart de siècle après, en 1456, son procès de réhabilitation.
Réhabilitation, bien
Donc,
entendu.
L'existence de ces deux procès rend l'affaire tout à fait déterminante pour le choix de Rouen.
Ce qu'on oublie parfois de rappeler, et c'est Régine Pernoud, bien entendu, qui avait beaucoup écrit sur cet aspect, c'est que ces deux procès, le procès en condamnation et le procès en réhabilitation, permettent de constituer sur Jeanne d'Arc un fond de témoignage et donc un fond documentaire absolument unique. On peut dire que Jeanne d'Arc est la femme la plus célèbre du Moyen-Âge et la mieux connue.
Je ne sais pas, mais en tout cas, en particulier, parce que le procès de condamnation, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin, il y en a eu naturellement, Cochon, l'évêque Cochon qui a présidé à ce tribunal s'est renseigné, mais le procès de réhabilitation en revanche interroge les témoins de la vie de Jeanne d'Arc et c'est le parti pris de l'historial.
Alors justement, que voit-on dans l'historial quand on le visite? Sous quelle forme tout cela se présente-t-il?
Eh bien, le choix a été le suivant. On ne voit pas Jeanne d'Arc. Oui. On n'entend pas ses voix, par définition. Ce serait un petit peu difficile. Mais on voit les témoins de Jeanne d'Arc qui sont des témoins de sa vie, qui sont interrogés depuis son enfance jusqu'à sa mort sur la place du Vieux-Marché au mois de mai 1431. Donc c'est à travers ces témoignages, qui sont des témoignages fiables, qui ne sont même pas des témoignages entièrement concordants, convergents, qu'on peut se rendre compte de la façon dont ses amis, parce qu'en gros ce sont ses amis qui ont été interrogés, la voyaient.
En fait, lorsqu'on se rendait à Rouen il y a peu de temps encore, il fallait être un connaisseur de l'affaire et de la ville pour pouvoir se rendre sur les lieux mêmes, car on ne voyait pas grand-chose. Grâce à cet historial, on peut dire que la mémoire de Jeanne d'Arc sera davantage présente dans cette ville.
C'est un historial, c'est un mémorial. Mais c'est je pense que le terme d'historial est bon dans la mesure où on a voulu être le plus possible près des sources authentiques, vérifiées, critiquées. Alors il y a, disons, toute une série de salles qui, en montant jusqu'au sommet, évoquent toutes les étapes de la figure de Jeanne d'Arc depuis son enfance à Domremy, la petite Jeannette, jusqu'à sa fin. Et puis ensuite, on redescend par une série d'autres salles où sont évoquées successivement la façon dont les historiens travaillent. Les historiens sont même interrogés, et puis le retentissement qu'elle a eu dans les arts et dans les lettres, Et puis également, car ça n'est pas négligeable, et cela fait partie aussi de son histoire, toutes les légendes, toutes les fables.
Et oui, Dieu sait qu'elles ont été très nombreuses, mais bien sûr.
On peut dire qu'on trouve, mais même ces fables ont leur intérêt.
Merci beaucoup Philippe Contamine. Je rappelle que l'Historial Jeanne d'Arc de Rouen ouvre après-demain, samedi 21 mars.